Radio Campus Lille, il est 8h.
Au cœur du centre-ville, je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel, Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes. Le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens. Moi je suis le monde de la nuit, une boîte, une discothèque. Chez moi on s'enlève de la tête tous les soucis. Je suis essentiel. Oui, essentiel. Faire ses courses à Auchan, engraisser Amazon, pendant que crèvent des honnêtes gens avec leur môme. Métro, boulot, dodo, ça va bien un moment. Les hommes ne sont pas des machines que l'on confine. Je suis essentiel.
Le revenu de base toute l'année avec tous essentiels, l'émission du revenu de base sur les ondes de Radio Campus 106,6. Ce mois de juillet, mais on n'est pas au mois de juillet là, pourquoi tu me fais lire le mois de juillet? Voilà, je ne veux plus travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Produire plus pour gagner moins, polluer et empoisonner ma famille, mes voisins, entasser mes bêtes pour rembourser la banque, brader mes produits aux grandes surfaces. J'aimerais partir en vacances avec mes enfants, vivre décemment de mon travail, mutualiser le matériel, les expériences, croiser les savoirs anciens et progrès techniques, vendre en local du bio, du bon.
Merci. Qui suis-je ?
Mais qui suis-je,
mais
c'est
qui
ça ?
Qui suis-je ?
Mais je suis paysan, sans doute.
Oui.
Ah, bon.
Tu viens de lire une affiche qui a été créée suite à plusieurs interviews d'agriculteurs du coin, du Nord et du Pas-de-Calais, et sur qu'est-ce qu'ils feraient avec leur revenu de base et en quoi un revenu de base pourrait soutenir ceux qui nous nourrissent. On en parlera dans un instant. Donc, on va accueillir notre invité,
mais oui,
qui s'appelle Julien Lecaille. Bonjour Julien.
Bonjour.
Donc tu as accepté de venir. Alors, la première condition, c'était d'avoir signé l'initiative citoyenne européenne. Hein, donc tu l'as fait exprès. Non, tu m'as dit que tu l'avais déjà fait.
Je l'avais déjà fait parce que je soutiens beaucoup d'initiatives et je signe souvent beaucoup de choses parce qu'il faut soutenir les choses intéressantes.
Alors tu m'as dit que tu étais un commoneur. Donc on vous lance, chers auditeurs, ce gros mot qu'on vous expliquera dans tous les détails et tout l'espoir et la dynamique qu'il porte, que c'est tu crées, tu développes et tu facilites des communs, et que c'est non seulement ton activité économique et ton idéal politique.
Eh oui, c'est intriguant, wow, n'est-ce pas ?
C'est super de réussir à conjuguer les deux, ça fait rêver, on vous dira tout. Mais commence d'abord par passer par notre question traditionnelle. Imagine, à partir de demain, tous les mois, si tu reçois suffisamment pour vivre, ça tombe sur ton compte, il n'y a rien à faire, c'est à ton nom. Tu bosses pas, tu l'as, t'es en couple, t'es pas en couple, tu l'as, t'as des gosses, t'as pas des gosses, tu l'as, et jusqu'à ta mort. Qu'est-ce que ça changerait pour toi ?
Ah bah, ça changerait que je pourrais enfin donner à d'autres personnes que moi. Parce que en général, j'essaie d'avoir une vie où j'ai juste ce qu'il faut pour vivre, et il me reste assez peu en fait pour soutenir les gens que j'aime, que j'apprécie, ou les initiatives qui ont du sens pour moi. Et donc, ça me donnerait une marge d'argent supplémentaire à donner à d'autres personnes, parce qu'il faut faire vivre les gens, mais il faut aussi faire vivre les initiatives.
Donc même si tout le monde avait un revenu de base comme le tien, ben ça permettrait d'investir dans des collectifs et dans des projets, quoi.
Tout à fait.
Au-delà de ça. Merci beaucoup. Alors, en fait, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, le thème, c'est la transition écologique. Voilà. Et l'idée, c'est de la confronter avec le thème qu'on porte chaque mois, c'est le revenu de base. A priori, on pourrait penser que il n'y a pas forcément un lien. En tout cas, si on pense qu'il faut choisir entre le social, l'écologie, ou l'économique et l'écologie, on va vous prouver que non. Et que tous ceux qui nous disent que ce n'est pas compatible, ou même pire, qu'un revenu de base donnerait du pouvoir d'achat pour mieux consommer des produits chinois, c'est faux. Donc le premier angle, évidemment, c'est de pouvoir soutenir directement ceux qui nous nourrissent. Le témoignage que vous avez eu vient des témoignages des agriculteurs, et notamment de Lucie, qui est agricultrice amapienne, donc qui a lancé une AMAP à Vambrechy depuis une dizaine d'années, et j'ai la chance de bénéficier de ses produits depuis ce temps-là. Et voilà, et j'avais envie de prendre un petit temps quand même sur cette catégorie de professionnels qui donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie, de leur santé. Et rappeler des petits chiffres assez terrifiants. Il y a un suicide parmi les agriculteurs tous les 2 jours en France. Et c'est sans compter le nombre de maladies qu'ils subissent à cause des pesticides que voilà, toute l'organisation leur impose d'utiliser. Je pense à des tumeurs foudroyantes du cerveau ou des leucémies qui commencent à peine, grâce au travail des veuves, à être reconnues comme maladies professionnelles. Cette dépendance à la PAC aussi qui fait qu'ils subissent des décisions au niveau européen qui ne sont pas forcément compatibles avec ni leur santé ni la nôtre en tant que consommateur, et encore moins celle de la terre. Et aussi, petite pensée à tous ceux qui rêveraient de s'installer, pour qui la terre a déjà un coût, certains, et qui le font au prix de leur vie, même de famille, etc. Donc ça, c'est le premier impact, le premier effet évident, ça serait que nos agriculteurs pourraient avoir plus de marge de manœuvre et déjà une sécurité, et peut-être même profiter un peu de la vie. Ensuite, la deuxième piste, c'est qu'on pourrait tous plus participer à la transition écologique. Quand on pose la fameuse question « Et vous, qu'est-ce que vous feriez avec votre revenu de base ?» et j'ai quelques années d'expérience en éducation populaire sur le sujet, et bien figurez-vous que beaucoup de gens disent qu'ils feraient leur jardin, ils élèveraient des animaux, ils prendraient du temps pour rénover leur maison, voilà, et avec un rythme beaucoup plus cool. Est-ce que tu aurais une petite musique pour nous ?
Mais bien sûr !
Oui !
Allez, je fais une petite introduction avec Renaud Biston. Donc Renaud Biston a fait un album complet consacré à la radio qui s'appelle Radio Biston, tout simplement. Et dans cet album, il y a des alternances entre les chansons et puis des petites virgules radiophoniques. Donc je vous propose le France Bleu Biston. C'est parti.
Ça, c'est des figues. Figues du jardin. Autrement, on fait tous les légumes de saison. Petit marron orange, courgette moyenne, betterave, chou rave, patate, des radis, de l'ail et de la salade. C'est tout du plein chat. C'est pour ça, nous, on suit les saisons et puis les gens, ils voient.
Vous êtes toujours sur France Bleu Biston. Nous sommes en direct à Rail Fumier, en plein centre Biston-Liotte, sur le marché avec Lucien. Et on vérifie un petit peu si tout se passe bien dans la norme zéro phyto du ministère bistanais de l'Agriculture, puisque, je rappelle, on a découvert hier dans la province du Bistouana des aubergines du mois de décembre et des ananas hors sol. Alors vous, Lucien, rassurez-nous, vos légumes ne sont pas traités.
Non. Le 3/4 des, quand j'ai presque le 4/4, c'est tout pas traité, on n'y fait rien. On arrose juste au goutte à goutte. Autrement, ce qu'on met, nous, c'est du fumier de vache et cheval en granulé. Mais de toute manière, tous ceux qui mettent d'engrais d'ammonitrate dans les prés, ils en mettent. Faut y voir. Faut y voir pour y croire.
Eh bien, merci Lucien, puis restez avec nous.
Merci et passez bonne journée.
On est en direct du marché jusqu'à midi sur France Bleu Biston.
Pour accepter ton hypocrisie, tes mensonges et ta mauvaise foi, tous tes coups tordus et ton déni, faut-il que je t'aie idolâtré? Pour accepter tes changements d'humeur, pour encaisser d'être ainsi traité et en voir de toutes les couleurs. Car je me faisais balader tout le temps comme un écologiste au gouvernement. Je regardais ailleurs et toi tu rouvrais des dossiers que pourtant je croyais classés.
est de moi, mais mon tempérament, comme un écologiste au gouvernement, me poussait à rester même humilié, bafoué, trompé, à tes côtés. Faut-il que j'aie été fou de toi? Je m'étais résolu à partir, mais cette fois comme à chaque fois, tu m'as fait le coup du repentir. Faut-il que je t'aille de l'attrait pour encore faire semblant d'y croire? Moi, la négligeable quantité qui te servait juste de faire valoir. Je ne te croyais pas, mais je faisais semblant, comme un écologiste au gouvernement. Et bien que j'ai conscience d'être mené en bateau, je souriais sur la photo. Entre nous, le climat se déréglait vraiment, mais tu me répétais, on est en marche maintenant. Je voulais me calmer, mais j'entendais beaucoup trop fort, comme le bruit d'un aéroport. Je faisais la potiche devant tes amants, comme un écologiste au gouvernement. Lorsque je te confiais mes craintes et mes espérances, tu comptais les points de croissance. Je n'étais jamais considéré vraiment comme un écologiste au gouvernement, mais tu me répétais, tiens-toi à cœur, aussi tu tiens à conserver ton strapontin. Je faisais la potiche devant tes amants, comme un écologiste au gouvernement. Je trouvais dans mes lasagnes de la jument, comme un écologiste au gouvernement. Viens, on va dans l'hélico Artus Bertrand, comme un écologiste au gouvernement. C'est quoi cette autoroute en plein milieu du champ? Comme un écologiste au gouvernement, je voyais les abeilles disparaître tranquillement, comme un écologiste au gouvernement. Viens dans les eaux profondes, on pêchera du hareng, comme un écologiste au gouvernement. Tu supprimes tous les trains, tu montes le carburant, comme un écologiste au gouvernement. Quand tu disais un truc, je répétais bêtement, comme un écologiste au gouvernement. Ouais, quand tu disais un truc, je répétais bêtement, comme un écologiste au gouvernement.
Je m'appelle Didier Lheureux.
Faut-il que j'aie été fou de toi?
Et je suis retraité depuis un an. Je suis père de 9 enfants et grand-père de 17 petits-enfants. J'ai signé les CE pour que mes petits-enfants et mes enfants puissent expérimenter le revenu de base. En effet, il m'a fallu attendre 42 ans afin de pouvoir pratiquer mes hobbies. Le bricolage, le jardinage, la lecture, l'histoire, aussi l'astrophysique et la botanique. Je peux maintenant faire ce qui me plaît. Et donc il m'a fallu attendre tout ce temps pour pouvoir faire ce qui me plaît pendant et ne pas attendre le soir ou le week-end. Alors, si vous ne voulez pas attendre comme moi pendant 40 ans, signez les CE afin que le revenu de base soit expérimenté et aussi mis en place. Merci beaucoup.
Merci à toi Didier d'avoir accepté de témoigner. Alors, Didier ne dit pas tout, il est assez modeste. En fait, ça fait 40 ans qu'il retape des maisons dans le Pas-de-Calais, qu'il les loue avec des loyers très très modestes pour qu'ils soient accessibles. Il élève lui-même des animaux, ils ont un jardin énorme et tout ça avec 9 enfants. Voilà. Et du coup, un grand bravo aussi à tous ceux qu'on ne voit pas, mais qui, le jour, au quotidien, essayent d'être un peu autonome, de manger différemment et qui passe vraiment de l'énergie, du temps. Donc, Didier nous permet d'approcher aussi toutes ces personnes qui, avec la possibilité de travailler moins, il y a quand même un métier d'ingénieur, peuvent passer de hobby pour vivre plus leurs valeurs et notamment des valeurs plus écologiques. Et tout ça peut, grâce au temps libéré, lancer une nouvelle économie. Et on pourrait même imaginer qu'en ayant plus le choix de son emploi, il y a les fameux « bullshit jobs » qui seraient progressivement à disparaître, les emplois inutiles, les emplois toxiques pour nous comme pour la planète. On reparlera de la consommation juste après. Et de diminuer cette dépendance à l'emploi, ça pourrait aussi diminuer aussi le chantage des entreprises. Vous savez, ces grosses boîtes qui se permettent de nous dire « nous ne paierons pas d'impôts parce que quand même, nous donnons des emplois ». Donc voilà, donc grâce à cette sécurité individuelle et collective, on pourrait imaginer un ralentissement de l'économie avec justement, peut-être même Il y a des hypothèses dans d'autres pays, une baisse du taux de la natalité, qui perd, parce que dans certains pays, c'est les enfants qui sont le bâton de vieillesse. Donc nous, on n'est pas trop concernés par ça, mais c'est une autre piste. Et il y avait aussi cette idée que la consommation pourrait changer, et le fait de pouvoir reconnaître la diversité de chacun, que chacun choisisse plus ses activités, sans devoir forcément les rendre rentables ou s'orienter vers des choses qui sont reconnues comme rentables dans la société, on pourrait aller vers cette notion d'écosystème humain. Donc, Julien, tu avais rebondi là-dessus tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous développer en quoi le revenu de base permettrait d'atteindre un équilibre dans notre écosystème ?
C'est une question que j'aime bien lier à la notion de contribution. On a parlé tout à l'heure des réseaux d'AMAP comme réseau de soutien à l'agriculture paysanne qui permet d'assurer une vente des produits garantis, qui permettent d'assurer une stabilité de revenus supplémentaires pour les paysans. Et qui sont gérés par les consommateurs. Donc on posait la question, mais est-ce que c'est une action de consommation ? Pour moi, c'est plutôt ce qu'on appelle une action de contribution à un commun. Faire tourner une AMAP, c'est du travail administratif, c'est de l'engagement sur sa consommation, c'est un engagement aussi logistique pour les livraisons en AMAP, c'est un engagement social d'accompagner le paysan dans sa vie quotidienne, et c'est une organisation de gouvernance aussi, puisqu'il s'agit de participer à des choix collectifs et à gérer soi-même des choix collectifs. Et tout ça, c'est une expérience en fait sociale un petit peu totale qui permet de se confronter à différents aspects de la réalité humaine et de la réalité écologique aussi, en même temps. Ça fait que les AMAP, par exemple, sont un bon exemple de commun, hein, puisque tu m'as invité ici pour que je parle un peu de commun et pour les gens qui ont tâté un petit peu de l'AMAP, on a une petite idée de ce que c'est que de faire vivre ensemble ce type d'organisation collective, ambitieuse et qu'il faut faire vivre, en fait, parce que elle est fragile aussi. La question, donc, d'une attention aux écosystèmes, c'est, ça nécessite en fait une forme de rééducation du regard pour se confronter en fait à la réalité dans ces différents aspects. Ça nécessite aussi un petit peu de temps et de disponibilité, car c'est des choses qui nous manquent de nos jours. On a notre attention qui est captée par les logiques de consommation. On a aussi la pression du travail, de l'avancement de carrière et un certain nombre de choses.
Ça veut dire cuisiner, ça veut dire
tout ça,
participer à des chantiers.
Et le fait de libérer un petit peu de ce temps, de libérer un petit peu de cette énergie mentale, permet en fait de se reconvertir dans d'autres types de relations économiques, dans d'autres types de pratiques très concrètes aussi, on veut dire, quand on fait des concerts en fait pour la MAP, parce qu'il faut récolter, il faut faire les conserves en août, parce que c'est là que ça produit, et c'est bon, il faut faire les conserves et qu'on apporte cette chose-là. Mmh. On change aussi de posture en fait, de son rapport à ce que c'est qu'un métier, de ce que c'est qu'une activité, un hobby, de ce que c'est que du bénévolat. Ça nous amène à réfléchir un petit peu à toutes ces postures-là. Et de se mettre en lien différemment avec les gens.
Et aussi de goûter, je trouve, non seulement le lien entre les gens, parce que c'est aussi une fourmilière de convivialité, et aussi, je pense, en termes d'éducation. Mon fils, qui a 10 ans, il sait ce que c'est qu'une tomate, il sait le temps que ça demande à cultiver, à ramasser une tomate. Et il me semble que, par rapport à la consommation, ça redonne aussi la valeur des choses, parce que c'est un investissement, alors humain évidemment, mais aussi de la terre, et on consomme pas notre tomate de la même façon qu'avant. C'est-à-dire qu'on ne va pas la manger vite fait sur un coin de table. On la regarde, on se dit « Waouh, dis donc, en plus, c'est moi qui l'ai cueilli, etc. » Donc, ça redonne une valeur aux choses. Et quand on parlait tout à l'heure, hors micro, de contraintes, de comment partager l'écologie entre la contrainte et l'envie, je trouve que c'est le genre de choses, effectivement, qui est une contrainte. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent aussi. C'est rarement complètement accessible à tout le monde, même s'il y a des projets qui aident à l'accessibilité des paniers. Mais c'est aussi une grande plus-value en termes humains, en termes éducatifs. Et évidemment, on ne parle pas seulement de la terre. Et je pense aussi à un autre producteur qui est passé en AMAP au Quénois, et qui témoignait aussi de ce que lui, en tant que producteur, il y avait gagné. Parce qu'il était un agriculteur assez classique avant, et là maintenant en maraîchage, il apprend beaucoup. Il y a une convivialité entre producteurs, il y a plus d'échanges, ils s'échangent les appareils, ils s'échangent les trucs et astuces, etc. Donc c'est vraiment aussi pour les agriculteurs du soutien et du nouveau et plus de sens aussi dans leur métier, au-delà de la santé qu'on a évoquée. Consommation.
Eh bien, consommation, je vous propose une chanson des Tites Nacelles qui est diamétralement opposée à ce dont on vient de parler.
Non.
Mais si. Non, c'est de la provocation.
Je suis le premier à me moquer, mais je suis le premier à faire, à l'inverse de mes discours, tout est son contraire. Je suis le premier à redire, le premier à rechigner, à crier sur tous les toits, fais pas ci, n'achète pas ça. Mais moi j'ai un espace Renault, car j'ai déjà un Magmo. Moi j'ai un frigo high-tech, où je peux ranger sous pastèque. Moi j'ai une Honda 500, que même je peux faire du 200. Moi j'ai un autoradio
étanche, allô.
Trois télés à écran plat, parce qu'il y a trois chambres chez moi. Un PC pour elle et moi.
Quand on se Facebook, c'est sympa.
Un troisième pour la gamine. Ben oui, quand même, c'est plus intime. Une ribambelle de disque dur en quatre coups durs, car comme dit l'autre, si le client est roi, il a le droit d'être le roi des... Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a-t-elle fait perdre la tête? Moi j'ai mis l'appli iPhone, rien pour la déconne. Mais j'ai pas encore l'iPad, quoi qu'à crédit c'est peut-être jouable. Moi j'ai un 4x4 bleu gris, depuis que j'habite à Paris. Moi j'ai la clim dans les toilettes,
depuis je me sens mieux dans ma tête.
147 films récents,
que je regarde pas, j'ai pas le temps.
Tous les derniers best-sellers, conseillés par ma belle-sœur. Le live intégral de Johnny, en Blu-ray haut défini, sur mon bel écran plasma. Le Stade de France est chez moi. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles, nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a-t-elle fait perdre la tête? Moi j'ai ci, moi j'ai ça. Moi j'ai ci, moi j'ai ça. Nya nya nya. Je suis le premier à moquer, mais je suis le premier à faire, à l'inverse de mes discours, tout est son contraire. Je suis le premier à redire, le premier à rechigner, à crier sur tous les toits,
fais pas ci, n'achète pas ça.
Mais moi j'ai une assurance vie, avec forfait illimité, pour le jour où vous serez en deuil, que tout ça tienne dans mon cercueil.
Jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon.
Car
nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles.
Rien soyons qu'à moi
jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon.
Car c'est
on
pourra
jamais le temps de faire la révolution.
Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. On ne trouvera jamais le temps de faire la révolution.
C'est une question de revenus. Moi, je sais qu'en tant qu'étudiante, j'ai pas les moyens d'acheter des choses bio parce que ça coûte plus cher que les marques repères ou les choses comme ça. Donc voilà, donc je pense que je mettrai tout cet argent dans un investissement pour une meilleure société.
Donc il y a 20 ans, Kerylyn a 20 ans et elle a été interrogée par deux jeunes qui ont fait tout un film que vous retrouverez sur YouTube qui s'appelle « Les gens et le revenu de base ». Et on voit typiquement que Kerylyn, elle voit ce nouvel apport d'argent non pas pour enrichir les petits-enfants qui travaillent en Chine, mais plutôt pour réorienter sa consommation et qu'elle soit plus en lien avec ses propres valeurs. Et que c'est une frustration pour elle. Et donc, on peut voir non seulement dans les expérimentations, donc il y a un lien, vous trouverez sur revenudebase.info, le lien vers une carte des expérimentations. Uh-huh. Et dans les expérimentations, on voit que les gens avec cet argent, eh ben, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on l'a tous pensé, avouons-le, eh ben non, ils ne se droguent pas plus, non, ils ne boivent pas plus. Par contre, c'est plutôt des investissements à long terme dans le logement, l'éducation, les outils de travail, ou même la formation. Et qu'il y a un regain d'économie, donc beaucoup d'auto-entrepreneuriat par exemple, puisque ça rassure les gens, et que cette économie, cette espèce d'activité qui est gagnée grâce aux revenus de base, bénéficie surtout aux zones rurales. Et donc à partir de là, on peut comprendre, même psychologiquement, que quand on parle d'hyperconsommation, cette espèce de course aux écrans plasma dont parlait la chanson judicieusement choisie par Max, merci, en fait, c'est surtout une réaction psychologique à la contrainte, au manque de liberté, au manque de sens, au manque de valeur et au manque d'amour. Donc, comment est-ce qu'on pourrait réussir à projeter et comprendre que, même si ça ne nous semble pas intuitif, parce qu'on nous répète tout le temps que les gens vont se précipiter comme au temps des soldes, etc., en fait, le fait d'avoir de la sécurité, ça rassérène, ça pose, ça redonne aussi du pouvoir d'agir, de choix, d'action, comme Caroline nous le disait, et du coup, de responsabilité. Et qu'on irait plutôt dans une société, une fois que les besoins matériels de base, avec un revenu de base, seraient rassurés, on pourrait développer d'autres biens immatériels, ceux-là, comme la culture, comme la spiritualité, comme le soin, etc. Et donc du travail qui ait du sens, parce qu'on va avoir besoin de nouveaux emplois pour faire cette fameuse transition écologique. Julien.
Oui, mais faire du sens, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. C'est fatigant, c'est angoissant, parce que le nouveau sens qui arrive, il n'arrive pas marketé, packagé et consommable.
Tu nous donnes envie, là.
En le prenant sur l'étagère. Eh oui, je sais, j'ai un côté un petit peu sinistre, catastrophiste en général,
oh,
parce que je fais le prophète de malheur sur un certain nombre de choses, parce que je pense que le futur monde meilleur qu'on attend nécessitera quand même un petit peu d'effort. Nécessitera un petit peu de temps de conversion de regard, de temps pour apprivoiser des nouvelles notions, des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières d'appréhender les choses. On parlait tout à l'heure de la question de la consommation, la manière dont elle nous satisfait. Mmh. Et en fait, on peut être satisfait de plein de choses
Bien
et de
sûr.
Plein de manières différentes. Mmh. Encore faut-il prendre le temps d'observer,
de les goûter.
Le temps de goûter, le temps d'apprendre, de réapprendre des choses. Et le goût, en fait, ça s'éduque et ça se rééduque. Donc moi, parfois, je pense un peu au commun comme des espèces de petits camps de rééducation. Alors, on m'a dit qu'on avait droit à l'humour. Hein, bon. L'humour de mauvais goût aussi. Sans aller jusque des modèles extrêmement autoritaires et qui font peur, il y a en fait cette difficulté en fait qu'il faut arriver à affronter collectivement et affronter collectivement cette variation de regard. Il vaut mieux en fait apprendre ça sur des choses concrètes. Et donc, les communs, c'est aussi de se confronter très concrètement et très pratiquement à des nouvelles manières de faire. On a des nouvelles manières de faire ensemble avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter ou prendre des décisions de manière qu'on n'a pas l'habitude ou rentrer dans des pratiques économiques différentes de celles dont on a l'habitude. Et donc, c'est un peu déstabilisant, c'est un peu effrayant. Il faut accepter, on va dire, que cette négativité est là. Pour autant, en l'acceptant, on peut aller vers plus de convivialité, plus
voilà.
de bonheur, plus de sens profond de ce qu'on trouve, en s'aidant collectivement les uns les autres à passer les différentes étapes.
Et c'est ça aussi... me fait penser, excuse-moi, à un livre que je viens de lire à mon fils de 10 ans qui s'appelle 15 jours sans réseau. Alors je vous le conseille, j'ai pas l'auteur en tête, mais vous
c'est
trouverez ça.
C'est un cauchemar.
Tout à fait. Et en fait, c'est des parents hyper, hyper, hyper connectés qui emmènent leurs trois enfants 15 jours au fin fond de la Creuse, par hasard, véridique. Ah. Et effectivement, c'est très, très violent. Alors pour les enfants comme pour les adultes, on se rend compte que finalement, les jeunes s'y mettent plus facilement. Et c'est raconté par l'adolescente qui est au milieu de la fratrie et qui en souffre beaucoup et en fait qui progressivement va regoûter les joies simples d'une promenade en barque où ils s'éclaboussent les uns les autres en éclatant de rire, de camping plein de moustiques au milieu de la forêt, enfin voilà. Et c'est typiquement ça, de dire effectivement il y a un choix à faire, une décision et un changement à amorcer, mais pour quelle plus-value quoi, en lien, en rire, en grandir ensemble et se reconnecter à son corps, à la nature, enfin voilà. On n'est pas dans le développement personnel forcément, mais voilà, effectivement, d'oser se déconnecter, se changer les habitudes. Et en même temps, après, ça fait tellement de bien qu'on y revient, quoi.
Ouais. Mais du coup, on peut considérer aussi le revenu de base comme un investissement, en fait, dans ce changement cognitif, dans cette évolution cognitive.
C'est-à-dire
que le revenu de base, ça peut apporter du temps supplémentaire, ça peut apporter des sécurités supplémentaires qui vont être, après ça, utilisées pour franchir les différentes étapes de la transformation. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Enfin, il y a un certain nombre de petits investissements sur soi à faire, et le revenu de base apporte différents éléments qui permettent de faire ces petits investissements sur soi.
C'est vrai que je suis assez choquée quelquefois de voir qu'il y a des stages pour les pauvres, pour qu'ils apprennent à mieux gérer leur argent et surtout qu'ils apprennent à faire des économies ou à faire attention à la planète. Et voilà, alors, c'est sans doute intéressant, mais si en amont, on ne les aide pas à ne plus être pauvres, parce que c'est quand même un choix sociétal de se dire il faut des pauvres pour qu'il y ait des riches. Donc effectivement, je te rejoins dans le sens où un revenu de base, ça permet aussi de demander aux gens de prendre leurs responsabilités. Ce qu'on ne peut pas faire si on ne leur donne même pas les moyens de survivre, quoi. Alors, la dernière piste, c'est qu'il ne faut pas oublier que le revenu de base, c'est un outil. C'est un outil dans un projet de société. Et il y a quelques projets de société, donc il y a quelques versions de revenu de base qui prennent cette dimension écologique vraiment au pied de la lettre et qui font que cet outil de revenu de base soit dans un projet qui accompagne beaucoup plus concrètement la transition dont tu viens de parler. J'amorce, mais vraiment un tout petit peu, les projets qui intègrent des monnaies locales, puisque justement en juillet, on en reparlera, puisque ça sera notre thématique, la monnaie, l'argent. Mais voilà, si ça vous intéresse, vite fait, vous pouvez aller sur TEDx. Il y a Frédéric Bosquet qui vient de faire un TEDx pour parler du projet Terra, qui est dans le Lot-et-Garonne, et voilà, qui redynamise un territoire local en prenant soin des humains et de la nature. Donc voilà, c'est un sujet que je mets un peu de côté pour l'instant. Mais je vais vous parler d'une version particulière, celle des décroissants, alors avec notamment Vincent Liéger, qui a aussi fait des vidéos assez accessibles. Alors eux, ils mêlent avec un revenu de base monétaire, une monnaie locale citoyenne, mais aussi un maximum acceptable pour limiter aussi les hauts revenus qui sont indécents, on peut le dire, et aussi avec une notion qui est particulièrement intéressante, c'est des droits de tirage sur des biens communs, alors dit de gratuité, entre guillemets, mais pas gratuité au terme collectif, parce qu'évidemment ça a un coût, mais qui invite à une impulsion locale pour que les citoyens en eux-mêmes réfléchissent toutes les ressources qu'il y a sur un territoire, sur un bassin de vie, comment est-ce qu'on les gère, et avec une gouvernance partagée, etc. Donc il y a plein d'exemples. Alors, je vous cite Münster, si vous tapez sur Internet, vous retrouverez comment la ville de Münster et les quelques villages environnants ont lancé, à travers des marchés publics, à travers des programmes de recherche, des concessions de surface, et même un bilan sur les communs qu'ils utilisaient, qui existaient, et comment ils pouvaient s'en saisir, de lancer vraiment une systémique à partir de des initiatives au début individuelles et puis après par petits groupes, quelques associations qui portaient, etc. Et donc j'aimerais bien, Julien, que tu nous parles de ça. C'est comment les communs, donc avec l'Assemblée des communs par exemple, partent d'initiatives individuelles qu'on peut tous commencer chacun nous, parce qu'on a du pouvoir d'agir tout de suite. Et ça fait du bien de voir que, voilà, au-delà de tout ce qui se passe, on a un pouvoir d'agir et on peut l'actionner dès maintenant. Et comment on peut rendre ça plus systémique ?
Alors, donc, ce pouvoir d'agir, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le pouvoir contributif. C'est essentiellement de se dire, on ne va pas attendre ni une révolution, ni une action des institutions pour nous permettre de faire les choses. On peut d'ores et déjà s'initier à des réflexions sur la gouvernance partagée. On peut d'ores et déjà faire des petits systèmes économiques locaux avec sur des petits volumes. Il y a des systèmes d'échange locaux qui existent déjà un petit peu partout, les selles.
Les ressourceries,
tout un ensemble de dispositifs, toute l'infrastructure existe déjà et il suffit de regarder un petit peu les multiples annuaires de la transition qui existent pour trouver plein de choses et plein d'occasions de s'investir et donc d'investir ce pouvoir contributif, donc cette contribution dans des projets. La notion de commun, ça va un peu plus loin en fait que cette notion de contribution parce qu'il y a la notion de gouvernance et la notion de réciprocité qui viennent d'ailleurs, c'est que une fois qu'on a mis quelque chose, un peu de son énergie, de son temps, de son argent dans un projet, on peut poser légitimement la question, mais qu'est-ce qu'on a en retour ? Et c'est pas une question malhonnête ou c'est pas une question égoïste, c'est-à-dire ça permet de répondre à la question, mais qu'est-ce qui fait que mon investissement va durer dans la chose. Alors ça peut être une réciprocité purement symbolique, mais c'est une réalité. La satisfaction qu'on a d'être dans un projet, ça fait partie aussi des réciprocités
avec
qui sont nécessaires.
D'interdépendance aussi, de continuer à se motiver. Parce qu'en général, il y a beaucoup de militants qui craquent parce que ils n'ont pas nourri suffisamment leur sens ou même la reconnaissance ou le
tout
lien, etc.
Donc c'est essentiel d'avoir cette lecture, de se dire mais qu'est-ce que j'ai en retour de ma contribution et en allant un peu au-delà de la question bénévole, etc. Mais on peut aussi dans des communs avoir des logiques économiques. Enfin, c'est pas honteux de se dire mais quelle est la plus-value économique que je retire de mon action parce que j'ai besoin de vivre aussi. Donc on doit avoir cette lecture économique et on doit aussi avoir cette lecture de gouvernance qui est une lecture essentielle de se dire mais comment on prend les décisions ensemble. Et ça c'est une vraie question importante. Les gens ont tendance à être formatés aussi par un certain nombre de logiques de gouvernance qui sont issues de ce qu'ils voient dans les institutions publiques ou dans un certain nombre de gouvernances d'entreprises, etc. Et de répliquer des gouvernances qui sont des gouvernances inadaptées, parce qu'en fait, on peut réinventer parfaitement la gouvernance de tous les projets dans lesquels on participe. C'est une discussion à avoir, c'est une discussion difficile, parce qu'on doit aller au fond des choses, au fond économique, social, mais on peut toujours l'avoir. Moi, je veux dire, la première chose que vous pouvez faire, si vous voulez faire du commun, vous êtes dans une association, vous virez le président, vous virez le trésorier. Première chose à
gentiment.
Faire, très gentiment, en discutant, me dire maintenant, mais désormais, on se passera de président, on se passera de trésorier dans cette structure. Il n'y a aucune nécessité légale à ce qu'il y ait un président et un trésorier dans une association. On passe en gouvernance collégiale. Il y a des statuts disponibles sur Internet, il y a de la méthodologie et on apprend à prendre les décisions en collégiale.
Et c'est une sacrée prévention contre les conflits d'ailleurs, parce que alors que ce soit des conflits de personnes, que ce soit des conflits dus à l'organisation même, etc. Mais le fait de décider tous ensemble, ça montre, même si ça prend plus de temps, mais les décisions seront plus pérennes parce que elles seront pas contrebalancées ou contredites par le premier venu, et parce qu'elles auront la force de la légitimité du collectif. Quoi.
Et elles auront aussi l'effet de révéler des nouvelles choses. Parce qu'en obligeant à avoir les discussions, on révèle des choses qui étaient cachées jusque-là et qui permettent en fait au système très, très cloisonné, très fragmenté de se perpétuer. Et le fait de décider ensemble, ça révèle la réalité écosystémique qu'il y a derrière les choses et ça permet de mieux comprendre en fait la nature de réalité dans laquelle on est au-delà de la société de consommation. C'est vraiment important de prendre ce temps de discussion. Alors encore, comme je disais, c'est un investissement. C'est clairement un investissement en temps et en capacité d'attention, mais c'est un investissement qui vaut le coup.
Oui, mais quand je parlais en prévention, c'est démontré déjà, alors que ce soit dans les entreprises ou ailleurs, que quand on prend du temps pour la prévention, surtout sur les liens avec les risques psychosociaux, etc., on gagne après. Parce qu'après, on perd beaucoup de temps à gérer les conflits, on perd du temps à réorganiser parce que, on avait pris une décision, on a mis une dynamique en cours, mais elle n'est pas adaptée au terrain parce qu'on n'a pas pris le temps de consulter le terrain, etc. Donc c'est du temps qui a l'air perdu dans nos courses effrénées et nos agendas remplis. Mais c'est toujours au centuple du temps, de l'argent et des liens gagnés, en fait. Mmh. Sans parler de la santé, etc. Je fais juste un petit lien, si ça vous intéresse. Tout ce qui est gouvernance partagée, il y a un MOOC des Colibris qui est très bien fait là-dessus, qui vous permet à votre rythme de vous former. Et il y a même un accompagnement des collectifs. Et voilà, ils sont un peu partout sur le territoire. Donc, vous pouvez être accompagné pour ça. Et même commencer un tout petit peu. On n'est pas obligé de faire de la gouvernance partagée 100% tout de suite, quoi.
Ah oui, non, mais tout à fait. On prend ses décisions. Donc, justement, on fait les choix et on se demande quel est le type de gouvernance qui correspond à la chose dont on veut faire. Sur la question des conflits, il y a aussi la question de pouvoir traiter les conflits de manière ludique et dédramatisée. Mmh. Qui est encore quelque chose, c'est-à-dire, n'évitons pas le conflit, parce que parfois
surtout
le conflit
pas.
Est nécessaire.
Sinon, il pourrit.
Par contre, il y a des méthodes qui font que les conflits, voire les divorces, peuvent se faire dans des structures, dans des projets, sans drame et en bonne intelligence.
Yes.
C'est important que ça puisse se faire.
Super. Alors, l'Assemblée des communs de Lille, parle-nous-en. C'est quoi ce truc ?
C'est quoi ce truc ? C'est un projet qui fonctionne plus trop depuis un an parce qu'on est dans des conditions un petit peu particulières.
Oui, tout le monde, je pense.
qui est né en fait depuis 2016 d'une envie de faire fonctionner en réseau les commoneurs et les projets en commun d'un territoire.
Les quoi ?
Les commoneurs et les projets en commun. Les commoneurs. Donc, c'est les gens qui se définissent par rapport à la question des communs et qui se définissent comme étant des gens qui veulent vivre d'activités au sein des communs. Et de se dire, ben moi, toute la manière dont je pense mon activité professionnelle, je la pense au sein de projets en commun.
Comme toi, quoi.
Oui, alors il y a beaucoup de gens qui font ça, qui travaillent aussi dans des coopératives, qui sont des coopératives d'activités et d'emploi, qui ont l'intérêt, en fait, de mettre en relation un certain nombre de travailleurs indépendants, qui sont pas indépendants puisque justement ils rentrent dans une logique de coopérative et donc ils créent à partir de leur indépendance un commun dans la coopérative. Donc déjà un commun au niveau de la coopérative qui fait qu'il y a de la gouvernance partagée, du partage de connaissances, du partage de liens sociaux, du partage de licences, de brevets, enfin d'éléments, on va dire, qui peuvent être utiles à l'activité d'un indépendant. Et qui mettent aussi leur activité professionnelle au service de développement de communs qui peuvent être des épiceries solidaires, qui peuvent être des projets d'accompagnement en fait à l'activité. Par exemple, il y a un beau projet qui s'appelle la CAP à Roubaix, avec un projet qui accompagne des créateurs, des jeunes de différents quartiers ou des moins jeunes d'ailleurs pour développer leurs propres activités, donc s'initier à l'entrepreneuriat tout en étant dans une logique de partage et de coopération. On fait beaucoup d'aide en fait au système d'information aussi dans les plus grosses organisations qui essaient de fonctionner différemment. On est assez présent dans le milieu des tiers-lieux aussi, du développement des tiers-lieux, donc des lieux pluri-activités qui essaient de fonctionner en logique de gouvernance partagée dans un certain nombre de cas, pas toujours, mais assez fréquemment, ou en tout cas d'avoir une logique de contribution et de participation. Donc on a un peu tout cet écosystème et dans l'Assemblée des communs, on essaie de se mettre en lien au-delà des commoneurs professionnels, entre guillemets, avec les projets plus anciens qui sont déjà sur les territoires, que ce soit des AMAP, que ce soit des jardins partagés, que ce soit des habitats partagés, des projets de monnaie locale, des projets de logiciels libres, enfin... un certain nombre de projets et on essaie de faire ces interactions, ces partages d'expériences, ces partages de savoir-faire. Et on essaie aussi de porter une dimension un peu plus politique, qui est de se dire, toutes ces petites expériences autour des communs, à un moment, il faut qu'elles passent à l'échelle et qu'elles deviennent plus importantes. Et il faut nouer des partenariats avec des collectivités publiques, avec des institutions. Et c'est des logiques de partenariat public commun. Donc, se dire, mais finalement, comment On imagine cette relation entre des institutions qui portent un certain nombre de ressources, qui ont un grand pouvoir de décision, et des initiatives un peu autogérées d'habitants qui essaient de faire les choses. Et par exemple, à un moment, comment on fait cette réussite de composteur de quartier, par exemple ? Parce que si on veut que ce composteur de quartier qu'on a voulu créer, ben, il existe vraiment, il faut la négociation sur la place, sur l'espace public, il faut un peu de compétences techniques pour la gestion, il faut arriver à mettre en place toute cette logique de différents acteurs pour au final la réussite du projet.
Donc en fait, quand on est électeur, que ce soit au niveau municipal, départemental ou régional, comme bientôt, on peut agir aussi pour rendre plus systémique, pour soutenir tous ces projets-là, quoi.
Alors, il faut bien choisir pour qui on vote.
Oui.
Donc, il faut regarder la dimension transformative des projets, la dimension qui est laissée aux initiatives d'habitants, la dimension qui est laissée aussi à la possibilité de... Que le programme soit remis en cause, par exemple, ça c'est un truc que je défends assez fort, c'est de se dire qu'un programme électoral, en fait, il n'a pas à être respecté. Parce que si on doit respecter un programme, les habitants n'ont plus de place. De se dire, mais finalement, ce qu'on propose, en fait, c'est une proposition.
Donc la vraie démocratie participative ou des budgets participatifs,
par exemple. Des choses comme ça ne sont pas la même chose que le strict respect des promesses électorales qui sont faites à un moment. C'est au contraire laisser de larges blancs, de larges plages d'indécision dans la décision politique. C'est-à-dire finalement, il faut s'adapter à la situation. Et on voit bien ces dernières années que...
Oui, surtout cette année.
tout peut changer très, très vite. Mmh. Et donc, du coup, même sur 5 ans de mandat, 6 ans, c'est pas forcément pertinent de se dire il y a telle énorme infrastructure qui est promise, il y a tel gros programme qui est promis. Non, plutôt, on faut voir qui prend le temps de la construction, qui prend le temps de l'écoute, qui prend le temps surtout de révéler les ressources qui existent déjà sur les territoires, les choses que font déjà les gens. Ouais, et que parfois, il peut s'agir juste de mettre en réseau, juste de valoriser ce qui existe déjà, et c'est bien suffisant. Et faire autre chose, ça peut être même contre-productif. Recréer ce qui existe déjà parce qu'on a envie que ce soit nouveau, c'est même problématique.
Et tu penses qu'avec un revenu de base, du coup, les gens vont pouvoir s'investir plus sur des projets ou sur notamment en gouvernance ou en démocratie participative, etc. Ça pourrait avoir cet effet-là aussi.
Alors, il y a un truc qui est vraiment important, c'est qu'il y a besoin de facilitation. Alors, c'est un truc que je sais, enfin, que dire que les communs ne fonctionnent pas tout seuls. Ils ne fonctionnent pas tout seuls parce que il y a besoin d'un certain nombre de gens qui apportent plus, en fait, aux communs qu'ils n'en retirent. Et il y a besoin d'un certain nombre de gens qui soient mis dans des postures de facilitation pour que les communs puissent fonctionner.
Alors, qu'est-ce que tu appelles facilitation, précisément ?
Facilitation, c'est faire en sorte que la parole circule. Faire en sorte que les voix soient entendues, faire en sorte qu'on repère les différentes possibilités d'action possibles pour donner du sens à l'action collective, qu'il y ait des comptes rendus ouverts qui soient faits, que enfin c'est toute une compétence, on va dire, d'animation qui est nécessaire. Et les collectifs, en fait, peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas des gens qui prennent cette fonction de facilitation. C'est impossible. Donc, c'est un certain nombre de gens qui ont la compétence pour faire ce genre de choses qui doivent l'apprendre pour que les collectifs fonctionnent.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé par les carottes bio de notre amapienne et qu'on arrive finalement aussi à notre écologie intérieure individuelle, dire comment je trouve un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois pour être pérenne dans mon action. Au niveau collectif, comment est-ce qu'on apprend à communiquer ensemble et partager et trouver des solutions et les remettre, les adapter, etc. Et pour finalement pouvoir être en communication à l'intérieur de nous, entre nous et avec, évidemment, la planète, puisque c'est aussi l'enjeu de notre thématique d'aujourd'hui.
Mais oui, et donc du coup, je vous propose une petite pause musicale avec Renaud Bistan. Tout d'abord, une petite page de pub de Renaud Bistan de son album Radio Bistan, puis un extrait de son précédent album, Les chômeurs de mon quartier. C'est parti.
FM.
Bistan FM.
Et bon appétit si vous êtes à table et restez avec nous puisqu'on commence l'après-midi du bon pied avec encore plus de Bistan on and stop, c'est juste après ça.
Bistan FM.
Oh non, il y a encore un mec qui nous fait signe.
Non mais vas-y là, tu accélères.
Mais non, je vais pas les écraser.
Non mais à chaque fois qu'on passe le wesh gros, c'est pareil. Bonjour.
Bonjour, excusez-moi. J'ai une armoire là, emmenez la déchette. Ouais. Vous pouvez m'aider à la mettre dans le coffre ?
Ouais, c'est ça.
Cool.
Dans le cadre de la loi de collectivisation des transports, tous les propriétaires de 4x4 et de SUV sont d'astreinte et obligés de s'arrêter dans les cas suivants. Déménagement, débarras, brocante improvisée, transport de musiciens.
Bon débarras, merci hein.
Voilà, ben nous on y va, hein. On va filer.
Alors juste, on va passer vite fait chez mon cousin, récupérer ma contrebasse et puis aussi mes musiciens.
Ok.
En attendant la disparition des automobiles, mon 4x4 est ton 4x4.
Putain de pays de merde.
Ah non mais là j'en peux plus, il faut qu'on se débarrasse de ce 4x4.
Les chômeurs de mon quartier devraient être salariés. Pour leur bonne humeur et leur disponibilité, leur présence bienveillante fait qu'autour d'eux tout s'enchante, comme un repère important qu'on peut trouver tout le temps. Comme un service public, le chômeur te renseigne quand tu cherches une rue sur un plan et que t'es pressé. Tu comprends tout de suite que tu frappes à la bonne enseigne. Te donne de son temps sans aucune arrière-pensée. Les chômeurs de mon quartier devraient être salariés, car ils répondent présents à chaque déménagement. Ta voiture a un souci et ils plongent dans le cambouis. T'as une panne informatique et voilà l'esprit pratique. Ils sont tellement compétents dans de multiples domaines que de n'en choisir qu'un, ce serait du gâchis. Faire bêtement la même chose toute la semaine, alors qu'ils aident chacun à être mieux dans sa vie. Les chômeurs de mon quartier ont chacun 12 000 métiers. Commenter la météo, t'aider à faire ton créneau, ça ne paraît pas grand chose, mais dans nos villes moroses, d'égoïstes et de nerveux, ben ils mettent du ciel bleu. Quand j'ai besoin de parler autour d'une tasse de café, où est le psy bénévole qui m'écoutera des heures? Ce sont les copains chômeurs toujours prêts à se sacrifier. C'est bien simple maintenant, je les appelle docteurs. Mais il y en a des traîtres, des chômeurs malhonnêtes, et qui du jour au lendemain se remettent au turbin. Par une journée un peu triste où tu passes à l'improviste pour mater un DVD, le chômeur t'a planté. Il a rejoint la cohorte des gens stressés par la vie, piqué par le démon de la reconnaissance sociale. D'un air pincé, il te dira, on peut se voir samedi, que c'est triste de voir un copain trouver du travail.
Et puis bah, le travail, ce sera sans doute le thème de la prochaine émission, ça tombe bien ça.
Parce que le 1er mai, il se passe un truc, je crois. Je sais plus ce que
peut-être,
c'est.
Peut-être. Ça doit être un truc comme ça.
Julien.
Alors, j'ai perdu beaucoup de gens, je sais, en parlant de communs, parce que c'est les communs, ça fait peur. Et on ne sait pas ce que c'est.
Non, on est encore là.
Oui. Et surtout que le truc fondamental qu'il faut retenir sur les communs, c'est que les communs, ça ne marche pas.
Oh merde.
Eh non. En fait, c'était même la doxa, on va dire, dans les années 70 et dans les années 80. C'était une grande victoire du libéralisme d'avoir achevé, en fait, la disparition de la propriété collective locale et d'avoir achevé la pérennité du domaine privé d'un côté, du domaine public de l'autre. Et le monde était bien rangé. Le monde était bien rangé sans les communs, puisqu'on pouvait tranquillement consommer de la propriété privée, pendant que le domaine public s'occupait de l'intérêt général, avec le brio qu'on connaît à la puissance publique, et le monde était finalisé.
Alors tu nous vends du vent ?
Non, parce qu'il y a eu plein d'agitations dans les années 80, à ce sujet-là. Il y a eu quand même quelques interrogations sur le fait que le système de production arrivait quand même peut-être à bout de course et qu'il y avait un petit problème de taille de la planète qui se posait et qu'on n'arrivait pas à résoudre sans la question des communs, puisque à tout fragmenter, à tout commercialiser, à tout marchandiser, on arrivait à une incapacité à prendre en charge un certain nombre de biens publics mondiaux, biens communs mondiaux. Enfin, la question de l'atmosphère étant une question assez canonique, puisque n'importe qui sur la planète peut pourrir l'atmosphère comme il veut. C'est assez difficile à repérer quand il le fait, et ça impacte l'ensemble de la communauté humaine et l'ensemble de l'écosystème. Et donc, on a ce problème, en fait, de nature commune de l'atmosphère qui fait qu'on a dû commencer à réfléchir à des nouvelles formes. On a eu aussi la question du développement de l'Afrique et d'un certain nombre de régions du monde. Se dire que faire passer sur le même chemin de développement des pays hors d'Europe et en appliquant strictement le modèle de développement qu'avait suivi l'Europe, peut-être que ça ne marchait pas et peut-être que c'était un petit peu violent et un petit peu déstructurant pour les communautés locales. Et surtout, on a eu la grosse émergence des communs numériques, qui a été la grande révolution qui a du coup remis la question des communs au goût du jour.
Wikipédia,
donc
sur libre.
La question de la culture libre, donc la question du logiciel libre, la question de Linux, de GNU Linux et de tout le mouvement du logiciel libre qu'il y a eu à ce moment-là, la question du partage de la connaissance, de l'open access, enfin toutes ces questions-là sont revenues sur le tapis et ont complètement remodernisé, donné un coup de boost, donné un coup de modernité
et d'espoir.
Oui, mais une modernité tout à fait compatible, on va dire, avec le monde dans lequel on vient. On va dire que les communs, c'était pas nécessairement un retour au Moyen-Âge où la propriété commune était la propriété de la communauté paysanne. Les communs, ça pouvait être quelque chose qu'on vivait dans le monde qu'on connaît, hein, en tant qu'habitant du 21e siècle. Donc c'était un peu rassurant pour les Occidentaux. Et surtout, l'idée que des communs pouvaient être une solution pertinente et qu'on n'était pas obligé de mettre les gens, les projets en concurrence permanente et qu'on pouvait avoir des dispositifs comme les communs qui étaient pensés sous le régime de la coopération, ça répond quand même à une aspiration qui se développe, de dire on ne veut pas être mis en concurrence artificiellement les uns avec les autres. Quand on peut se passer du fait d'être en concurrence, ben pourquoi pas essayer plutôt d'être sur un mode coopératif.
Et on peut saluer d'ailleurs toutes ces petites mains, tous ces bénévoles partout dans le monde. On vient de citer Wikipédia, mais qui alimentent quotidiennement et finalement bénévolement surtout, là où on dit que l'être humain est feignant ou l'être humain veut toujours être le meilleur, etc. Là, c'est une preuve par l'expérience que non, quoi.
C'est une preuve surtout qu'il peut y avoir un écosystème qui fonctionne avec des gens qui donnent, avec des gens qui facilitent et avec des gens qui aussi dans des activités économiques, hein, puisqu'il y a des modèles économiques qui existent autour du logiciel libre, des modèles économiques autour de Wikipédia. Enfin, dire moi, une partie de mon activité, c'est de faire des bases de connaissances comme Wikipédia. Donc, il y a une petite part de vie économique qui existe aussi par rapport à ça. Et au-delà, enfin, les bénévoles sont importants parce que les bénévoles apportent cette contribution, apportent cette matière contributive sans laquelle rien ne serait possible. Mais il y a tout l'écosystème qui peut aussi fonctionner autour et qui peut faire plein de choses différentes au-delà de ce qui est prévu à la base. C'est ça qui est formidable, de découvrir en permanence de nouvelles applications, de nouvelles possibilités et d'ouvrir ce champ des possibles.
Est-ce que tu as d'autres exemples concrets pour nos auditeurs demain, là, ou même aujourd'hui, à la fin de l'émission, vers quoi ils peuvent s'orienter?
Alors, on a fait un petit portail avec la communauté autour des assemblées des communs qui s'appelle lescommuns.org. Qui est parce que le problème des communs, c'est qu'il y a une très 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 grande diversité et qu'on peut trouver des dimensions de communs dans tout un tas d'activités, d'ailleurs quasiment dans toute activité, on peut la communiser. Du coup, lescommuns.org est un portail qui renvoie vers toutes les documents pédagogiques qu'on peut trouver.
Merci beaucoup, on s'arrêtera là. Donc à vous de faire poursuivre cette émission en vous investissant, en vous informant, en vous formant et en participant.
Mmh. Et bon, on peut juste rappeler le site de l'ICE.
ICE.mfrb.fr, où vous allez sur revenudebase.info, où vous trouverez non seulement le lien vers l'ICE pour la signer et la faire signer, mais aussi la carte des expérimentations si ça vous intéresse.
Et puis on se retrouve cet après-midi pour un épile-poil la compile qui continue. Et une dernière chanson, c'est l'église de la très sainte consommation avec la marchandaise.
Merci Julien.
Merci beaucoup.
De nombreux crédits à la consommation, crédits à la consommation. C'est le travail qui nous libère, nous sommes libres de consommer. Endettés, pieds et poings liés, les actionnaires peuvent sabrer le champagne.